éthique en levant l'anonymat pour les donneurs de gamètes à partir de 2013 et en autorisant la recherche sur l'embryon sous certaines conditions. Les appels à l'annulation du débat sur la laïcité organisé par l'UMP se multiplient. C'est aujourd'hui la sénatrice UMP Fabienne Keller qui propose l'abandon du débat en signe d'apaisement. Pour Dominique de Villepin, ce débat était une erreur que l'UMP doit reconnaître, mais pas question d'annulation pour l'instant du côté de Jean-François Copé, le patron de l'UMP.
Tous les dimanches, c'est à 20h10,
c'est
le masque et la plume,
excuse-moi,
Jérôme Garcin.
On va y venir.
C'est un petit peu ça, quoi.
Littérature.
Non.
Comme il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup de petits points de suspension.
Cinéma.
Moi, je trouve que vous avez tort.
Théâtre.
J'ai trouvé.
Je te prie, même.
N'en fais pas trop.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume,
écrivez vos emails.
Non.
Rendez-vous demain dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter, partenaire du bilan géostratégie du monde. Avec le réveil du monde arabe, l'histoire s'accélère. Cette deuxième édition du bilan géostratégie confronte l'influence des grandes puissances et l'émergence de nouveaux acteurs. Il analyse les défis qui se profilent et dresse l'état des forces armées de 150 pays. Le bilan géostratégie du monde, à lire en ce moment et à retrouver le 1er avril à 19h20 dans Partout ailleurs.
France Inter. La différence.
15h05 sur France Inter, je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Hop, vous là-bas, là. Arrêtez-vous. Vous garez là, s'il vous plaît. Ouais. Écoutez, j'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Sortez du véhicule, monsieur. Écoutez. Bon, sortez du véhicule. Écoutez. Bon, il y a un racolage passif, là, hein, monsieur. Hein. Mais non, il n'y a aucun racolage, écoutez. On fait un petit débat sur la laïcité. Ouais, arrêtez votre sketch, là, monsieur. Hein. Il y a un racolage limite actif, d'ailleurs, de voix Front National. Là, hein. Alors, vous enlevez votre panoplie de président, là, d'ailleurs, elle vous va pas bien. Hein. Puis vous vous calmez, monsieur. Hein. Écoutez, monsieur, il y a méprise. Hein. Je vais vous expliquer. On fait un petit débat sur la laïcité, il n'y a pas de problème. Bon, allez, ciao. J'en peux plus. Allez, bisous. Bis. Bruno, Paris. Allez, ciao.
Bonjour, un renseignement généreux. GDF annonçait 30% d'augmentation des tarifs en 6 ans. Démenti peu après. Et pourtant, lundi, GDF annonce 5% d'augmentation applicable vendredi, ce vendredi-là. 4 jours entre l'annonce et l'application. Sans discussion, le gouvernement donne son feu vert à GDF. Encore un coup de pied dans le cul du peuple. Au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Bonjour, les parents d'élèves de l'école primaire du Vigan sont toujours en colère et disent que dans une société où on nous demande d'être toujours plus performants et tout le temps, un gouvernement qui se dit refuser l'échec scolaire et l'illettrisme et dans le même temps nous supprime des classes et des postes, nous trouvons l'incohérence totale. Et vous, nous avons décidé de nous battre et de refuser la fermeture dans notre école. Samedi 26 mars, nous étions au rond-point du Vigan, affublés de pancartes dessinées en cercueil représentant la mort de l'école, pour informer un maximum de gens sur la gravité des décisions prises par les autorités. Après les facs, les lycées, les collèges, c'est maintenant au tour des écoles primaires. Et dans un pays où tous les enfants ont la chance de pouvoir aller à l'école, ils n'auront plus le droit d'apprendre à lire et à écrire correctement. Alors battons-nous pour la scolarité et l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous concernés. Merci et bonne journée.
Bonjour. Je crois bien qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, je dis ça comme ça, hein, si ça intéresse quelqu'un. Au revoir, bonne journée.
Finalement, à l'aube de ce 21e siècle, et ce n'est déjà plus tout à fait l'aube, on peut même dire que la matinée est bien engagée, la question qui hanta le dernier quart de siècle passé se pose toujours. Existe-t-il une troisième voie, comme on disait alors? Autrement dit, une évolution possible, en dehors des ornières profondément creusées par cette désastreuse alternative qui limite toujours le choix entre une tradition fixiste, sclérosée et sclérosante d'un côté, et de l'autre, un développement quasi exclusivement fondé sur les innovations technologiques, dont l'essor dépend de l'appétit d'entrepreneurs et d'investisseurs, qui n'y voient que l'occasion de faire un profit encore plus considérable que par le passé, tout en améliorant leur confort de vie, au détriment de l'inconfort et même de la misère grandissante dans laquelle ils précipitent le commun des mortels, sans que cela ne tracasse leur conscience, puisque la modernité les a définitivement débarrassés de tout sentiment de culpabilité. Désormais, on n'est plus coupable que devant la loi. Et la loi, il suffit de s'arranger, d'être du côté de ceux qui la font, autrement dit, du côté du pouvoir. Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, puisque le pouvoir a toujours été au cœur des instances de jugement, c'est-à-dire des institutions. Si la sortie de l'ornière est politique, c'est dans le sens où il est éminemment politique. Il est du ressort de la politique d'émanciper, d'arracher les individus à l'inertie d'instances dirigeantes et aliénantes d'un pouvoir tutélaire qui n'a d'autre but que de les oppresser afin de mieux en disposer. Ce qui ne change pas, en fin de compte, c'est que c'est toujours le même problème qui se pose et que ce problème concerne les masses.
Bonjour à toute l'équipe de La Bastille, j'y suis, c'est Sébastien. J'ai longuement hésité avant de laisser ce message parce que les remarques des auditeurs sont très pertinentes et je me disais que je ne pourrais peut-être pas faire mieux, disons pas faire aussi bien. Alors ce qui me fait appeler, c'est que j'entends beaucoup de gens dire « oui, mais on va en guerre, c'est horrible ». Évidemment, je sais bien que c'est horrible d'aller en guerre, je ne suis pas un battant en guerre d'abord, mais mettez-vous à la place quelques secondes d'un opposant libyen au colonel Kadhafi. Si vous étiez un de ceux-là, que diriez-vous si quelqu'un vous proposait son aide pour justement essayer de calmer tout ça? Voilà, encore une fois, je ne suis pas un battant en guerre. Ces gens sont sous la dictature, il faut peut-être qu'on vienne les aider justement. Alors peut-être qu'il y a d'autres façons de les aider. Dans ce cas-là, pourriez-vous me préciser lesquelles à ce moment-là? Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Peut-être qu'il y a d'autres façons. Peut-être qu'il y avait d'autres façons. Vous précisez lesquelles. Oui, on va esquisser en tout cas des peut-être quelques perspectives. C'est ce que fait le monde diplomatique de ce mois d'avril, qui tourne beaucoup autour de la révolution arabe et de la Libye, des opérations menées en Libye essentiellement par la France, les pièges d'une guerre et de longs papiers dans ce numéro du Diplo. Je vous conseille notamment un papier de Georges Cormes, particulièrement clair et construit sur l'unité retrouvée des peuples arabes. Toujours est-il que nous assistons à bel et bien à une révolution dont personne ne peut savoir le déroulement, l'avenir. C'est par nature un peu. Il n'y a pas de recette pour les révolutions. Il n'y a pas révolution mode d'emploi. Même les historiens les plus aguerris et les plus malins ne s'aventureraient pas trop, je crois, quelle que soit la poésie du futur, comme disaient certains, à s'aventurer pour dire comment tout ça va évoluer. Mais toujours est-il que c'est passionnant et qu'il est assez rare qu'on assiste à un tel retournement, même si c'est pas tout à fait à notre porte, encore que cette révolution arabe aura, sinon déjà a, des conséquences dans notre vie hexagonale. Donc aujourd'hui, on est avec l'équipe du Monde Diplomatique, en l'occurrence Serge Halimi, Alain Grèche, Renaud Lambert et Guillaume Pitron, qui lui nous parlera d'un truc tout à fait étonnant, la gomme arabique. Je me demande combien d'entre vous savent ce qu'est la gomme arabique. Il faut avoir un peu de bouteille pour savoir ce que c'est que la gomme arabique. Et alors encore moins nombreux ceux qui connaissent, qui devinent l'influence, l'enjeu géopolitique que représente, la gomme arabique. Voilà quelques sujets que nous allons évoquer dans ce numéro d'avril du Monde Diplomatique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je vous appelais au sujet de la publicité que fait actuellement la Préfond. Il faut savoir que la Préfond, en 2011, ne touchera pas son point de service. Autrement dit, nous toucherons en 2011 les mêmes sommes qu'en 2010. Il faut que les gens le sachent, car je trouve la publicité un peu mensongère. Bonne journée.
Juste après ton émission hier, Daniel, il y avait une pub, machin, BioCiel, l'EDF, hein, qu'offre des conseils pour économiser l'énergie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais demander conseils à EDF pour des économies d'énergie, c'est un peu comme demander à Marlboro des conseils pour arrêter de fumer. Ils sont sûrement bien placés pour répondre, mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec l'équipe du monde diplomatique. Pas si diplomatique que ça.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, voilà, on se retrouve autour du numéro du mois d'avril du Monde diplomatique qui consacre beaucoup de place évidemment à la révolution arabe, pays par pays. Mais on va commencer par l'intervention, enfin pas seulement française, mais on a l'impression qu'elle est que française, hein, vue d'ici. L'intervention des troupes, enfin des troupes, non, pas de troupes encore au sol, mais en tous les cas de l'aviation. Et quelle aviation ? Et quelle aviation ? Mais la France n'est pas seule, il y a aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont l'air un petit peu plus timides dans cette affaire. Serge Halimi.
Moi, j'ai le souvenir de la guerre du Golfe. À l'époque, j'étais aux États-Unis, et à chaque fois que je regardais les journaux télévisés français, j'avais l'impression que c'était François Mitterrand qui avait tout décidé. Et après, évidemment, j'appuyais sur ma télécommande et je passais sur les chaînes américaines et on ne parlait jamais de François Mitterrand et tout avait été décidé par Bush, ce qui était évidemment plus proche de la réalité. Là, je crois que, bon, la France a joué un rôle. On sait que la décision d'intervention a été prise à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'une des premières choses quand même qu'il faut dire à ce propos, c'est que c'est une décision d'entrée en guerre qui a été prise sans consultation des partis, sans consultation des opinions, sans consultation des parlements. S'il y a une décision vraiment autocratique prise par une, deux ou trois personnes, on peut penser à celle-là. On a même découvert, après que la décision soit prise, que en Russie, Medvedev et Poutine n'étaient pas d'accord sur le choix qui avait été fait. Alors évidemment, pour nous, c'est un peu compliqué ce qui se passe. C'est un peu compliqué de ne pas se placer automatiquement du côté de l'ennemi, de notre ennemi, en partant de l'idée qu'on peut aussi avoir dans la vie deux ennemis. Est-ce qu'il faut donc aider un peuple arabe ? Est-ce qu'il faut plutôt refuser une intervention militaire étrangère ? Et on sent que parmi nos lecteurs, parmi ceux qui nous suivent à gauche, il y a beaucoup de flottements selon qu'on privilégie la solidarité avec un peuple arabe. Et il est évident que le peuple libyen courait un grand danger d'être écrasé, ou bien l'opposition à une intervention étrangère, à plus forte raison quand c'est une intervention de l'OTAN. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de voir la situation et de savoir comment se déterminer. D'abord, il faut partir de l'idée que les Libyens avaient le droit absolu d'appeler à l'aide et le droit de ne pas refuser l'aide des pays et des forces militaires qui seraient les plus susceptibles de leur porter secours. Je pense que l'hypothèse d'un massacre à Benghazi n'était pas admissible et qu'elle l'était encore moins dans le contexte général du printemps arabe, dans la mesure où on peut imaginer qu'un massacre à Benghazi aurait été un coup d'arrêt à ce printemps arabe. Alors naturellement, une fois qu'on dit que les Libyens avaient le droit d'appeler à l'aide, ça ne veut pas nécessairement dire ce type d'aide. Et il aurait été préférable que ce soit une aide des Nations Unies, des casques bleus, qui interviennent sous commandement des Nations Unies avec un mandat bien précis.
Ou l'intervention d'autres pays arabes.
Ou l'intervention d'autres pays arabes. Je ne suis pas absolument certain, enfin Alain sait mieux que moi, je ne suis pas absolument certain que les Libyens auraient accueilli une intervention égyptienne, par exemple, sur leur territoire. Mais en tout cas, l'intervention de troupes occidentales dans un pays arabe, et c'est la troisième intervention maintenant des Américains dans un pays arabe ou dans un pays musulman, ça fait beaucoup, ça fait un peu croisade coloniale. Le terme a même été utilisé par Monsieur Guéant, qui est maintenant notre ministre de l'Intérieur, et il est évident que ça n'était pas la meilleure des solutions. On aurait préféré que ce soit des troupes des Nations Unies.
C'est le terme qu'avait employé Bush en 2001 concernant Afghanistan.
Absolument. Donc on aurait préféré que ce soit l'intervention des Nations Unis ou des négociations, mais il faut bien voir que la préférence pour des négociations ou l'intervention de troupes de Nations Unies n'avait aucune chance d'aboutir avant la reconquête de Benghazi par les troupes libyennes fidèles au régime. Donc ça, à mon avis, c'est la première chose à dire. Les Libyens avaient le droit de demander qu'on les aide et l'aide qui s'est portée à leur secours a été une aide occidentale. C'est pas ce qu'on aurait préféré.
Mais il y a, vous avez dans le diplôme, là, de ce mois-ci, d'avril, un long papier de Georges Cormes, qui fait un peu le catalogue de tous les risques de récupération, de contre-révolution. Évidemment, quand il y a révolution, il y a contre-révolution. Quand il y a révolution, il y a récupération de la révolution. Et parmi les risques que courent ces révolutions, dit-il, il y a l'accompagnement occidental. Hein. Et on voit ce terme-là apparaître dans les heures qui s'écoulent. Et bien, ces jours-ci, on entend cette expression ces jours-ci, accompagnement, nous devons soutenir ce printemps arabe, cette révolution arabe. On a mis du temps. Et est-ce que ce soutien est aussi sincère qu'il en a l'air et aussi humaniste qu'il le prétend ? Alain Grech.
Bon, on est confronté à une évidence, c'est-à-dire les pays occidentaux, États-Unis et Union européenne, ont aidé les dictatures, toutes ces dictatures du monde arabe pendant 30 ans. Ça, c'est la première chose quand même à rappeler. Deuxièmement, elles ont continué à les soutenir, en tous les cas dans la première période de la révolution tunisienne et un peu au début de la révolution égyptienne. Et puis elles se sont rendues compte que le mouvement était irréversible. Et donc c'est normal, d'une certaine manière, qu'elles tentent de l'orienter. Même s'il ne faut pas surestimer leur capacité aujourd'hui à l'orienter, demain peut-être. Mais toutes les tentatives d'intervention qu'il y a eu auprès de la Tunisie, faites par la France, faites par les États-Unis, auprès de l'Égypte, ça, ont donné assez peu de résultats. Mais à partir du moment où ces changements ont lieu, je veux dire, bon, le monde tel qu'il est fait que les États-Unis vont essayer d'orienter ces révolutions dans un sens qui leur est favorable. Et il faut bien voir qu'on est au tout début d'un processus qui va durer des années. On n'est pas dans un mouvement qui, au bout de 2 mois, s'arrête. On voit bien, ça s'est étendu à tous les pays. Il n'y a pratiquement aucun pays qui est épargné. Et on voit bien que chaque pays connaît des évolutions compliquées, c'est-à-dire avec des luttes, ce qui est normal d'ailleurs, des luttes internes. Il y a, disons, le point d'unification de toutes ces luttes, c'était la liberté. Vraiment, c'est-à-dire la liberté des citoyens, le fait que le citoyen, face à l'arbitraire de l'État, réclamait ses droits. Mais c'est évident que, par exemple, dans le domaine social, il y a des contradictions. On a vu en Égypte aujourd'hui ces tentatives d'interdire les manifestations sociales. Il y a des combats qui vont se poursuivre et durer longtemps. Mais je voudrais rajouter quelque chose sur la Libye à propos de ce qu'a dit Serge. C'est vrai qu'au moment où le Conseil de sécurité se réunit, les troupes de Kadhafi sont prêtes à entrer à Benghazi et qu'à ce moment, ça devient très difficile d'imaginer une autre solution. Mais il y avait d'autres solutions avant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est arrivé à une impasse qu'il faut, il faut quand même voir en arrière. C'est que si dès le début on avait effectivement aidé les insurgés libyens d'une manière ou d'une autre, avec peut-être l'appui de certains pays arabes, on aurait pu avoir une autre situation. Parce que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est important pour l'avenir de la Libye que ce soit les Libyens eux-mêmes qui renversent Kadhafi.
Juste sur le deux poids, deux mesures. Évidemment que personne ne croit à la sincérité des puissances occidentales. On est même dans la situation un peu baroque de voir des avions Rafale qui mitraillent une armée à laquelle on voulait vendre des avions Rafale il y a quelques mois. Donc cette hypocrisie, on la connaît.
C'est-à-dire que c'est Dassault contre Dassault.
Voilà. On sait que les États-Unis et les Européens ne font rien pour les Palestiniens, ne font rien pour le Bahreïn, ne font rien pour des tas d'autres peuples, et que souvent ils sont aux côtés des forces de répression. Mais je dirais qu'en même temps, dès lors qu'on condamne ce deux poids deux mesures, cette hypocrisie occidentale, on ne peut pas soi-même se condamner à un deux poids deux mesures. On ne peut pas se prêter aux mêmes techniques d'argumentation. On ne peut pas dire, lorsque le peuple tunisien renverse Ben Ali, vive la révolte des peuples arabes, allez-y les gars, dénoncez le soutien aux autocrates. Et puis quand il s'agit de Kadhafi, dire, ah ben non, calmez-vous les Libyens, vous êtes des féodaux au service des États-Unis et des grandes compagnies pétrolières, le régime que vous voulez renverser est un régime qui se prétend anti-occidental, donc il est progressiste, donc on ne vous soutiendra pas. Ce qui est un peu quand même la rhétorique d'un certain nombre de gouvernements latino-américains. Oui. Donc pour qu'on ait un certain crédit, et une certaine honnêteté intellectuelle, quand on dénonce légitimement le deux poids et deux mesures des occidentaux, et ça on le fait nous depuis que le monde diplomatique existe, il faut aussi qu'on signale quand même le deux poids et deux mesures de ceux qui auraient tendance à trouver des excuses au régime de Kadhafi, à le présenter comme beaucoup plus progressiste ou beaucoup plus anti-impérialiste qu'il n'est, parce qu'il faut bien dire...
Qu'il le fut,
c'est le bon temps. C'est vrai que c'est un passé simple, c'est révolu, il n'y a plus aucun lien avec le présent. Le régime de Kadhafi a servi de garde-chiourne aux populations immigrées africaines qui voulaient venir vers l'Europe. Il s'est tout à fait associé aux croisades de Bush, à partir de 2003. On voyait encore il y a peu de temps les entretiens qu'il accordait au journal du dimanche où il disait « on est dans le même bateau pour combattre les terroristes, les occidentaux et nous les libyens ». Donc je n'arrive même... Et qu'Israël ? Il évoquait même ce qui s'était passé à Gaza en disant « vous avez bien vu que quand il y a des terroristes, il faut envoyer une armée pour les écraser ». Et donc cette rhétorique-là, il faut l'avoir à l'esprit et ne pas être dupe maintenant du discours anti-impérialiste qu'on lui prête.
Alors comment expliquer que le leader de certains pays d'Amérique latine ait été aussi dupe et aussi naïf? Je pense aux pays de l'Alba, notamment Chavez, Venezuela, Correa, Équateur et Bolivie. Monsieur Renaud Lambert, qui maintenant s'occupe de l'Amérique latine au monde diplomatique, a certainement un point de vue pour excuser tous ces gens-là.
La grille de lecture qu'ont utilisé les pays d'Amérique latine, on pense à Hugo Chavez, a été une grille de lecture latino-américaine. Ils ont souhaité transposer ce qui se passait au nord de l'Afrique à des situations qu'ils estimaient avoir connues en Amérique latine. Et il me semble qu'ils se sont trompés de situation. Par exemple, Hugo Chavez a expliqué que ce qui se passait en Libye lui rappelait le coup d'État dont il avait été victime en avril 2002. À cette époque, il avait fait l'analyse que l'Empire, les États-Unis, avaient utilisé une forme d'insurrection, l'opposition organisée, qui avait déclenché ce qui avait ressemblé à l'époque à un massacre de population, il y avait quelques blessés, pour justifier potentiellement une intervention et un changement de pouvoir, un coup d'État. Et donc Chavez nous explique, ben voilà ce qui se passe en Libye, c'est la même chose, on cherche à mettre la main sur le pétrole libyen et créer une situation qui permet aux États-Unis de s'emparer de ce pétrole.
Or, mais en se comparant avec Kadhafi, il dégrade sa propre image.
Oui, bien sûr, c'est juste. Mais je vais jusqu'au bout des situations parallèles avec l'Amérique latine. Parce qu'il se trouve qu'au Venezuela, en 89, il y avait une situation qui était peut-être plus proche de celle qu'on a pu observer en Libye. En 89, ce qui s'est passé au Venezuela, ça s'est appelé le Caracaso. Le président de l'époque impose à la population des mesures d'ajustement structurel, augmentation des tarifs, notamment du pétrole, des transports. La population descend dans la rue pour protester et est réprimée par la police. On estime le nombre de morts à plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Et là, la population se rebellait pour la liberté, liberté de décider de son destin, de rejeter des mesures économiques qui lui étaient imposées depuis l'étranger. Et à cette époque-là, Hugo Chavez avait plutôt soutenu la population et soutenu son droit à se défendre. Alors après, pour ce qui est de la proximité entre Hugo Chavez et Kadhafi, il est évident que les gouvernements latino-américains, comme les gouvernements européens, italiens, français, pouvaient chercher à trouver appui auprès de Kadhafi, notamment dans la constitution de rapports entre l'Amérique latine et l'Afrique, de rapports qui contourneraient les rapports habituels entre Washington, Londres, Paris. Et bon, la politique réelle, ces conditions s'appliquent à l'Amérique latine comme à d'autres pays. Est-ce que ça impliquait d'aller jusqu'au soutien à Kadhafi? Je me pose la question. Hugo Chavez a été très prudent. Récemment, un membre de la chancellerie vénézuélienne a expliqué que le Venezuela apportait son soutien à Kadhafi et ne reconnaîtrait pas les insurgés. Serge Halimi le dit dans son édito du numéro d'avril. Ça constitue une erreur d'analyse politique évidente, à notre avis.
Alain Grèche.
Il faut dire un mot sur le pétrole, parce que ça, c'est évidemment quelque chose qui revient de manière permanente, que... En fait, c'est une guerre pour le pétrole. On publie dans ce numéro un article de Jean-Pierre Serini qui fait l'histoire du pétrole libyen. Et c'est très intéressant parce qu'on voit à travers les 30 ans comment les rapports de force autour du contrôle du pétrole ont évolué, non seulement en Libye, mais dans le monde arabe et dans le monde. Mais ce que montre cet article, c'est qu'au moment où il y a une réhabilitation de Kadhafi après le règlement de l'affaire de Lockerbie et où les sanctions sont levées, le Libye s'ouvre totalement aux compagnies pétrolières internationales et Kadhafi donne la priorité aux compagnies américaines. Et c'est un choix politique. Donc en fait, le pétrole libyen, à la veille de l'insurrection, est aux mains des Occidentaux. Comme d'ailleurs, pour une raison très simple, c'est-à-dire que le pétrole est contrôlé essentiellement par le marché et que Kadhafi, comme tous les autres, ont besoin de vendre leur pétrole. Mais lui, en plus, il a pris appui sur les sociétés américaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune dimension pétrolière dans cette guerre. C'est-à-dire que l'inquiétude qui naît à propos de la Libye, de ce qui se passe en Libye, elle est évidemment liée au fait que c'est un producteur de pétrole. Mais pas le fait qu'on ne contrôle pas le pétrole. Le fait que, peut-être, une guerre civile ou l'effondrement du pays, ça pourrait affecter les exportations libyennes. Mais encore une fois, ce n'est pas le contrôle du pétrole libyen qui est en cause.
Si je peux revenir sur la question de l'Amérique latine, il me semble que l'erreur de certains gouvernements latino-américains, c'est de partir de l'idée que dès lors qu'ils ont de bons rapports d'État à État avec la Libye, pour des raisons tout à fait recevables d'ailleurs, ils sont membres de l'OPEP, ils peuvent avoir une stratégie commune en matière de prix du pétrole. La Libye a permis au Venezuela d'acquérir une influence plus grande en Afrique. Donc dès lors qu'ils ont de bonnes relations avec un autre État, le gouvernement avec lequel ils ont de bonnes relations est bon. Et donc tout ce qui s'oppose à ce gouvernement risque en quelque sorte de conforter l'ennemi impérialiste. Et je veux dire, si on fait ce genre d'analyse, on est condamné à faire beaucoup d'erreurs, parce que deux peuples peuvent se soulever dans deux pays différents pour des raisons comparables, et on dira au premier « vous vous soulevez contre un gouvernement pro-américain, bravo », et on dira au second « vous vous soulevez contre un gouvernement qui n'est pas pro-américain, ou qu'on ne perçoit pas comme pro-américain », puisque comme le rappelait Alain, le gouvernement libyen en fait a pris des tas de mesures qui étaient tout à fait alignées sur celles des Occidentaux. Dès lors que ces gouvernements n'est pas perçu comme pro-américain, alors taisez-vous, on ne vous soutient pas et on soutient le gouvernement qui vous réprime. C'est une très vieille histoire, je veux dire. C'est une histoire qui est aussi vieille que le mouvement communiste international. Quand l'Union soviétique ou la Chine avaient des rapports étroits avec des gouvernements répressifs, et qu'au nom de ces rapports étroits qu'ils entretenaient avec des gouvernements répressifs, ils disaient aux communistes des pays qui étaient réprimés par ces gouvernements répressifs, ben écoutez, on n'a pas trop envie de s'occuper de vous. Il faut donc faire la distinction entre ce qui est le rapport d'État à État, et je conçois tout à fait que le Venezuela ait eu des rapports corrects avec la Libye, et le soutien au régime de ces États.
Reste qu'on peut quand même s'inquiéter des opérations en cours, là, puisque on est à quelques jours du début de ces opérations, notamment françaises, en Libye, si on se souvient du Kosovo, par exemple, si on se souvient de la Somalie, si on se souvient de l'Irak, si on se souvient de l'Afghanistan, on se dit, est-ce qu'on n'est pas au début d'un long bourbier qui pourrait devenir un long merdier ?
Chaque situation est vraiment particulière. Et je crois que une des manières d'analyser ce qui se passe et de comprendre pourquoi, en ce moment, on en est là, c'est de voir l'état des opinions publiques arabes. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il y a une intervention essentiellement occidentale dans le monde arabe qui ne suscite aucune manifestation. Il y a des débats, il y a des gens qui ont des positions assez similaires à celles que nous, on peut développer dans le monde diplomatique, mais personne ne descend dans la rue pour soutenir Kadhafi. C'est important à comprendre, c'est-à-dire qu'il y a un rejet pas seulement de Kadhafi, mais de l'ensemble de ces régimes, et y compris de la justification de ces régimes, on pourra peut-être parler après de la Syrie, qui utilisent, alors des fois, alors plus réellement en Syrie qu'en Libye, leur posture anti-impérialiste, pour justifier des mesures de répression. Ça, ce n'est plus accepté. Et le fait que la télévision, je dirais, le meilleur allié des Occidentaux aujourd'hui, c'est la télévision Al Jazeera. C'est-à-dire qui est finalement complètement du côté des insurgés, et ça favorise évidemment un consensus dans le monde arabe. Maintenant, ce qui pose problème, c'est que personne ne sait vers quoi va déboucher cette... On voit bien à quel point les insurgés sont faibles, ne disposent pas d'armes réelles, que les troupes de Kadhafi sont relativement aguerries. Et si l'intervention se prolonge des semaines et des semaines, si elle aboutit à des bombardements, puisque le terme de frappe est un terme que nous voulons récuser, parce qu'il est une espèce de terme chirurgical comme ça, alors qu'on sait que les bombardements tuent, et tuent souvent des civils. Si ça se prolonge, et si ça se prolonge demain autour de Tripoli, là, il y a possibilité d'un retournement des opinions publiques, et de l'opinion publique internationale, parce que il y a l'Amérique latine qui a, dont Renaud a expliqué les positions, mais il faut rappeler que l'Inde s'est abstenue, la Russie aussi, la Chine aussi.
Et l'Afrique du Sud a voté pour.
L'Afrique du Sud a voté pour, mais qu'en Afrique, par exemple, ça c'est une des choses qu'il faut reconnaître, je veux dire, ça peut nous plaire ou pas, Kadhafi a une vraie autorité, parce que c'est lui qui a créé l'Union africaine, parce qu'il a donné de l'aide importante à un certain nombre de pays africains, et que, bon, il y a des gens qui pensent que Kadhafi est très bien. Donc, il faut tenir compte de tout ce contexte, et c'est sûr que plus la guerre se prolonge, plus on risque de revenir à un schéma qui est une guerre occidentale perçue par les peuples arabes comme une guerre contre eux. Ce qui n'est pas aujourd'hui, il faut le reconnaître.
ما نبش حقوق انسان مره جيش امريكا تخش بعد الحكم واضح الليبي المرتزقه فيه ترش نحن بسلاح الابيض هو ب 14 ونص
وين المجد وين الثورة وين الوطنية وين الغيرية خسارة انك مني كذابية مش كنت انك مجاهد مش تبي تكون شهيد تعال نزل الشارع وحارب ويا مجاهدين جيب السلاح متاعك ونزلت على هيا حارسنا مش تقعد كير زي الفار المحنك تعجرسنا انك اكبر طاغية شاهد عليها التاريخ انك اكبر عميل يتبرى منا التاريخ والحبوب يدويت عليهن ولدك سيف ياخذ فيهن ياخذ فيهن يزرق فيهن انت حرك الا بيهن سامحونا يا صحابة ويا جدي عمر مختار انا خليناه سنين بين حكم ويختار آسف. قائد يوسف او يشبه شهيد بالنفار yeah.
شهداء الكتيبة فبراير 2011 كيف أكثر من هيك من أجل الحرية العادلة مساواة مساواة 1844
On continue avec le numéro du mois d'avril du Monde diplomatique. Vous faites un papier sur ce qui se passe aux États-Unis, notamment au Wisconsin, sur ce mouvement social très, très vigoureux contre le gouverneur de l'État du Wisconsin qui entend limiter l'expression syndicale hein, dans cet État. Ce qui est intéressant dans les manifs qu'on peut voir et qu'on entend, c'est la référence à l'Égypte. Hein, c'est quand même assez extraordinaire de voir que c'est les États-Unis, c'est-à-dire les Américains, qui prennent modèle maintenant sur le monde arabe, alors que ça a été si longtemps exactement l'inverse. Il s'agissait de faire le plus américain possible et de s'américaniser le plus possible. Voilà que c'est ces pays qui font modèle, espérons, pour longtemps. Ce qui se passe aussi à l'ingrèche, c'est qu'on dit la révolte arabe, le printemps arabe. Mais si on regarde ces pays, et vous les regardez dans ce numéro, c'est quand même des pays forts. Différent. Hein, quel rapport au fond entre la Tunisie, un petit pays qui a des ressources limitées, le tourisme, etc., mais qui n'a pas de ressources comme le pétrole, etc. Et puis l'Égypte qui est placée dans une situation géopolitique bien, bien imbriquée, bien précise et très névralgique. Et puis d'autres pays comme le Yémen, Bahreïn et la Syrie. Il faut quand même différencier tous ces pays.
Oui, il faut les différencier, mais il faut aussi voir qu'il y a quelque chose de commun. C'est-à-dire que il n'y a aucun pays, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été épargné par cette vague. Ce qui montre qu'il y a quand même des aspirations communes et que les gens se sont reconnus dans les images qu'ils ont vues sur Al Jazeera de ce qui se passait en Tunisie ou de ce qui se passait en Égypte. Qu'au Maroc, en Algérie, au Bahreïn, au Yémen, tout le monde s'est reconnu dans ces manifestations. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important parce que ça veut dire que le mouvement ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, dans le Monde Diplo de ce mois-ci, on publie une liste des mesures économiques et politiques prises par chaque gouvernement après la révolte tunisienne. Et c'est époustouflant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un régime qui n'ait pas fait soit des concessions économiques en disant...
Ils se copient tous les uns les autres. Oui, hein. Il y a le même logiciel.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces concessions, il y a 2 ans, auraient été considérées par les peuples comme une extraordinaire avancée. Aujourd'hui, en général, elles sont refusées. Parce que tout le monde sait que... On n'a pas atteint le point de non-retour. On a atteint peut-être le point de non-retour en Tunisie, d'une certaine manière en Égypte. Mais ailleurs, par exemple, les concessions faites au Maroc, il n'y a pas de point de non-retour. Le roi peut revenir demain sur tout ce qu'il a cédé. Et les gens veulent être sûrs que, du point de vue des libertés, du point de vue de la démocratie, il y ait une avancée importante. Maintenant, après, non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a... dans ces mouvements des tendances différentes, ce qui est normal. Je veux dire, il y a des conceptions politiques, économiques, sociales qui sont différentes. Il y a des affrontements qui vont avoir lieu maintenant, notamment sur la question sociale, qui est quand même une question très grave dans ces pays. C'est des pays qui sont des pays pauvres, malgré le pétrole, où une partie importante de la population est pauvre. Donc il faut réfléchir à quel est le développement possible de ces pays. Et puis chaque pays a son histoire, avec des particularités, notamment si on prend Bahreïn, c'est une population à majorité chiite, avec une minorité sunnite. Si vous prenez la Syrie, c'est une population qui est assez multiple, avec une minorité alaouite qui a pris le pouvoir, enfin c'est une secte chiite, dans un pays qui est à 60% sunnite et où il y a aussi beaucoup de Kurdes et il y a aussi beaucoup de chrétiens. Bon, mais il y a un élément, moi, qui me frappe quand même partout, c'est la tentative des mouvements d'opposition de non-violence. C'est-à-dire, l'exemple le plus frappant, c'est le Yémen, C'est-à-dire, c'est une population où il y a deux Kalachnikovs par habitant, et où, malgré la répression, jamais les manifestations... Il y a eu des morts, il y a eu des morts partout, en Égypte, en Tunisie, etc., mais il n'y a jamais eu le basculement dans la guerre civile. Ça ne veut pas dire...
Jusque-là.
Oui, mais c'est quand même un signe. C'est-à-dire, c'est une société... La société yéménite, c'est la plus traditionnelle dans le monde arabe. Une société où tout le monde est armé, où la question de l'honneur est importante. Le fait que même la répression sanglante n'ait pas abouti à une réponse armée, quand même quelque chose de significatif. Et puis, il y a d'autres dimensions. C'est intéressant de voir le cas de la Syrie, parce que là, il y a une vraie position anti-impérialiste, c'est-à-dire d'opposition à la politique israélienne d'expansion, de résistance aux pressions américaines. Et il y a évidemment un débat dans la gauche arabe par rapport à ce régime, qui en même temps a les caractéristiques des autres régimes, c'est-à-dire à la fois autoritarisme, corruption, etc. Comment allier les deux? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la presse, disons, progressiste arabe, ce qui est mis en avant, c'est de dire « oui, la Syrie joue un rôle important et nous ne voulons pas que ce rôle disparaisse d'opposition aux Américains, d'opposition à Israël et à sa politique expansionniste ». Mais en même temps, pour mener à bien cette politique, il vaut mieux des réformes, il vaut mieux aller de l'avant vers la démocratie que de maintenir des structures dictatoriales. Et le fait que des journaux qui, dans tous les conflits, ont soutenu à la fois le Hezbollah, la Syrie dans son affrontement à Israël, disent ça, me semble quelque chose d'important. Et bon, on voit qu'il y a aujourd'hui une disposition du régime à faire des réformes, mais là aussi, le problème est le même qu'en Tunisie, où il était en Égypte. Est-ce que ça va apparaître suffisamment crédible à la population, avec une autre dimension syrienne qui est quand même importante et qui est plus liée au Proche-Orient qu'au Maghreb, si vous avez cette dimension ethnique et confessionnelle, c'est-à-dire une multitude à la fois arabes, kurdes, à la fois chiites, sunnites, etc., avec une peur réelle d'une partie de la population que ça se termine en guerre civile. Mais il faut dire que globalement, l'opposition en Syrie a plutôt un langage modéré et une volonté de maintenir l'unité nationale. Mais on peut, d'une certaine manière, l'exemple de ce qui s'est passé en Irak a été aussi un élément, vous savez, on a dit c'est une guerre pour la démocratie. En fait, ça a eu l'effet inverse, parce que les gens se sont dit, dans le monde arabe, si la démocratie c'est ça, c'est-à-dire la guerre civile, les attentats, etc., il vaut mieux les dictatures et il vaut mieux l'autoritarisme.
Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais plus dans lequel des papiers de ce diplôme d'avril, quelqu'un dit, oui, mais dans le rejet de l'Occident, dans le rejet de l'impérialisme, etc., auquel ces peuples adhèrent et auxquels certains d'entre nous adhèrent aussi, il ne faut quand même pas oublier que du côté occidental, il y a un certain nombre de vertus, les lumières et la sécurité sociale. Je ne sais pas qui parle de ça dans un papier. Voilà. Ou c'est Serge. Oui. D'ailleurs, l'auteur est à côté de nous. Il s'est reconnu.
Oui, il y a effectivement à la fois des dimensions qu'on peut juger positives ou compréhensibles ou progressistes dans le refus de l'Occident, quand c'est le refus de la politique de la canaudière, le refus du mépris des indigènes, le refus des politiques impériales, le refus des guerres de religion, et en même temps un certain nombre de dimensions qui sont, elles, franchement réactionnaires. Quand c'est le refus de tout ce qu'a apporté les Lumières, parce que l'Occident, c'est aussi le syndicalisme, c'est aussi le féminisme, c'est aussi le socialisme. Et certains, dans leur refus global de l'Occident, en viennent à récuser des valeurs auxquelles on est assez attaché.
Alain Grèche.
Ce qui est frappant, d'ailleurs, dans ces mouvements, c'est qu'on nous a dit pendant des années, c'est où les dictatures ou les islamistes, et nous avons dit alors soutenons les dictatures, et en fait on se rend compte qu'il y a un mouvement auquel les islamistes participent d'ailleurs, ils sont une force importante qu'on ne peut pas négliger, mais où quand même le consensus c'est de dire aucune forme de dictature, ni islamique, ni laïque, ni communiste, ni socialiste, ni réactionnaire, on veut plus de dictature. Et ça c'est quand même quelque chose qui montre une maturation de cette opinion publique qui a vécu dans le monde arabe, il faut le rappeler, 40 ans de pétrification, c'est-à-dire c'est les mêmes régimes qui sont en place avec une très faible place aux citoyens qui sont victimes de l'arbitraire absolu. Donc cette volonté de construire un régime démocratique, le fait que la démocratie soit maintenant acceptée par pratiquement toutes les forces, même les forces islamiques, il n'y a plus personne qui dit il ne faut pas d'élection, il n'y a plus personne qui dit il ne faut pas de pluripartisme, il n'y a plus personne qui dit il ne faut pas de liberté de la presse. Donc ça, c'est quand même un changement, une maturation qui est très important et qui ouvre la voie peut-être à une forme de dialogue avec l'Occident qui sort de cette dichotomie. C'est-à-dire rejet global de l'Occident dans lequel on met effectivement les valeurs progressistes qu'il a pu représenter, voilà, ça me semble quand même quelque chose de porteur de beaucoup d'espoir, et notamment sur l'avenir entre ce monde et notre monde. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe dans le monde arabe, ce n'est pas de la politique étrangère. Ça nous concerne directement, à travers l'immigration, à travers les relations bilatérales, à travers la Méditerranée, etc. Et donc, ce que nous allons arriver à construire à partir de là, c'est très important pour l'avenir.
Juste ajouter que d'une certaine façon, pendant très longtemps, on a eu le sentiment que les combats progressistes étaient gelés un peu partout dans le monde. Et puis, il y a quelques années, c'est l'Amérique latine qui nous a un peu redonné espoir en prenant au sérieux un certain nombre de principes progressistes qu'on qualifiait de d'abord européens ou occidentaux. Là, maintenant, ce sont les peuples arabes qui nous disent « Vous qui ne croyez plus vraiment à la démocratie, qui êtes un peu là... »
Même le mot « révolution ». Le mot « révolution » appartenait à des vieilles lunes qui rappelaient tout de suite, qui conduisaient tout de suite au sang, à la guillotine et au goulag.
Au domaine de la publicité, des produits révolutionnaires.
qui ne croyez plus en quelque sorte à la révolution.
C'est un produit médiatique révolutionnaire.
Vous qui ne croyez plus à la révolution, à la démocratie, au syndicalisme, vous qui pensez que rien n'est possible, qu'il n'y a pas d'alternative, eh ben on réhabilite la politique. Et le paradoxe, c'est que cet univers arabe qui politiquement semblait gelé depuis quelques années, même quelques décennies, se dégèle au moment où c'est en Europe qu'on a le sentiment, et aux États-Unis, que la vie politique est à la fois gelée et prend un cours de plus en plus réactionnaire.
Bien malin, oui, Alain Grèche.
Juste pour rappeler que Georges Corme, qui écrit dans ce numéro, avait fait une tribune dans Le Monde il y a quelques mois, au début de ces révolutions, qui s'appelait « Ce que la rue du Nord peut apprendre de la rue du Sud ». Et peut-être qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de ce qui s'est passé dans le Sud.
Oui, dans ce sens-là, moi j'invite vraiment les lecteurs à se pencher sur les listes de concessions, de conquêtes d'une certaine façon des populations, parce que je sais que l'idée que lutter peut payer parfois vous préoccupe, vous concerne, Daniel Mermet. Là on voit vraiment que...
On ne perd pas toujours.
Exactement, on ne perd pas toujours. Donc il y a toutes ces mesures économiques et sociales prises par ces pays, et il y a aussi une partie de la résolution que cite Serge Halimi dans son article ce mois-ci, qui explique que la résolution donc 1973 prévoit qu'il sera possible de geler certains avoirs libyens pour les mettre à la disposition du peuple. Et ça ouvre quelques pistes pour nos luttes au nord.
Nous avons maintenant l'aval des Nations Unies quand nous voulons geler des avoirs qui ont été acquis indûment et les redistribuer à l'ensemble de la population. Là, maintenant, c'est une résolution internationale dont j'imagine qu'elle a au moins autant force de droit que les dispositions militaires qui sont mises en œuvre en ce moment.
On continue avec le diplôme du mois d'avril avec un papier assez étonnant sur la gomme arabique. Je ne sais pas si la gomme arabique dit grand-chose à beaucoup de monde. Moi un peu, parce que je sais qu'on utilise ça dans le dessin comme un moyen de fixer le fusain quand on dessine. Mais je découvre dans ce papier qu'il y a beaucoup d'usages de la gomme arabique et que c'est un enjeu très très important, notamment, entre autres, dans la fabrication d'une boisson gazeuse mondialement connue, et que c'est un enjeu énorme entre une partie du monde qui va du Soudan, Tchad, Nigeria, où l'on trouve cette gomme arabique en abondance, et les intérêts des grandes multinationales.
Oui, tout à fait. Alors la gomme arabique, on se demande ce que c'est. Je vois que ça, Jalimi faisait un signe négatif de la tête en ne sachant pas à quoi ça ressemble. Alors voilà, j'en ai amené. Ah, voilà. C'est pour vous. Ouais. Donc c'est de la sève d'acacia que l'on extrait entre octobre et mars.
C'est très bon.
Oui, alors... On peut la croquer d'ailleurs, vous pouvez la manger. Hein. On l'extrait en...
Ça vous colle la bouche définitivement, mais vous pouvez l'essayer.
Et donc, elle provient de ce qu'on appelle la ceinture de la gomme arabique. Et la ceinture de la gomme arabique, c'est une fine bande de territoire parsemée d'acacias qui se confond avec le Sahel et qui va du Sénégal à la Somalie. Donc ça inclut naturellement le Nigeria, le Tchad, la Mauritanie, le Mali, et bien sûr le Soudan, qui est le premier exportateur mondial de cette gomme arabique. Plus de 50% des exportations mondiales de gomme arabique proviennent du Soudan. Et il faut savoir que la meilleure qualité de gomme, dite Achab, vient en particulier du Nord Kordofan, à l'ouest du Soudan et de la région du Darfour. Donc cette gomme, elle, on l'extrait des acacias. Là, telle que vous la voyez, elle sort donc comme des boules.
Une résine, quoi. C'est une résine des acacias.
Tout à fait. Donc elle sort à l'état liquide, blanc. On peut bien sûr la manger ou la boire. Et puis, une fois qu'elle est séchée, on va la nettoyer de ses impuretés. On va la concasser. On va la réduire à l'état de poudre. À l'état de poudre, elle ressemble à de la farine, et on va l'introduire dans des doses infinitésimales dans tous les produits de consommation quotidien. Donc en fait, c'est un émulsifiant que l'on trouve partout, dans les sodas, dans le vin, dans la bière, dans les médicaments, dans les bonbons, les barres chocolatées, vous parliez du fusain tout à l'heure, la peinture, et même les produits de haute technologie. Donc c'est un sans gomme arabique, on saurait pas trop comment faire, il existe des substituts. Mais ces substituts ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité. Et puis surtout, la mode est au bio. Donc en fait, c'est un argument marketing pour l'industrie agroalimentaire en particulier que de dire que l'émulsifiant dont on se sert comme ingrédient dans les produits de consommation est naturel. Et donc aujourd'hui, la gomme arabique est un produit qu'on utilise énormément. Et sans elle, donc, comme je vous le disais, on ne saurait pas trop comment faire pour... Ça nous poserait gros problème de ne pas avoir de gomme arabique dans notre vie quotidienne. Le problème, c'est que le principal exportateur de gomme arabique au monde, le Soudan, est un État qui...
C'est un rogue state.
Donc c'est un État qui, au même titre...
Un État méchant.
Tout à fait. Donc au même titre que le Cuba, la Corée du Nord ou l'Iran, c'est un État qui est au banc de la communauté internationale. Les États-Unis ont commencé à se méfier du Soudan au début des années 90... ont accusé le Soudan de soutenir le terrorisme international, de pratiquer l'esclavagisme sur son territoire, de diffuser une doctrine islamiste radicale. Ensuite, il y a eu le Darfour et des massacres qui ont entraîné des centaines de milliers de morts. Donc les États-Unis ont appliqué un embargo sur le Soudan depuis 1997, qui est extrêmement strict. Simplement, on s'est rendu compte qu'on se tirait une balle dans le pied en appliquant cet embargo, puisque cet embargo s'appliquait de facto à la gomme arabique et que ça posait un gros problème à l'industrie agroalimentaire américaine, dont bien sûr l'industrie des boissons gazeuses. Et que seraient les États-Unis sans boissons gazeuses? Je vous le demande.
Il n'y a pas d'autres régions qui produisent de la gomme arabique dans le monde.
Alors, si...
On ne pourrait pas aller ailleurs.
Il y a d'autres pays.
C'est une idée qui me traverse.
Il y a d'autres pays africains, il y a le Nigeria, il y a le Tchad, qui sont des pays qui aujourd'hui montent en puissance sur la scène internationale, dans le commerce international de la gomme arabique. Il paraît qu'on en trouve en Inde également. On peut pas en faire pousser en France. Il fait pas assez chaud. C'est la chaleur, en fait, qui permet à la gomme de s'extraire. On a pensé en faire au Texas, mais imaginez un petit peu ce que représentent des millions d'hectares d'acacia dans les pays occidentaux. Ce ne serait pas du tout des cultures rentables. Donc, en fait, on a décidé de continuer à se fournir au Soudan.
La main-d'œuvre ne va pas être très, très chère au Soudan.
La main-d'œuvre n'est pas chère. Le Soudan est bien connu de nombreuses sociétés de négoces françaises, américaines, japonaises, qui ont leurs habitudes, qui connaissent très bien le marché. Et aujourd'hui, le plus simple est encore de continuer à se procurer de la gomme dans ce qu'on appelle le berceau de la gomme arabique, en particulier le Soudan. Donc aujourd'hui, ça reste comme cela, et le Soudan reste aujourd'hui incontournable.
Ce qu'on découvre quand même dans votre papier, Guillaume Pitron, c'est que la boisson gazeuse à laquelle nous faisons allusion a une formule qui reste un mystère. Hein. Voilà. Mais on découvre quand même que là, vous soulevez une partie du voile, parce qu'on découvre qu'il y a de la gomme arabique dans cette boisson gazeuse. Le reste, la coca, on voit ce que c'est. La cola, on voit ce que c'est. C'est une noix bien connue en Afrique. Là, on en est à un troisième ingrédient, la gomme arabique. Mais est-ce que ceux qui boivent du Coca-Cola savent que cette gomme arabique vient d'un pays épouvantable, qui est le berceau du terrorisme arabe le pire qui soit? C'est un petit peu d'Al-Qaïda qu'on boit à chaque fois qu'on boit une de ces bouteilles de boisson gazeuse, quand même. Il faut que les consommateurs le sachent.
Je vais essayer d'être un peu précis. Le Soudan a effectivement accueilli Ben Laden dans les années 90, et Ben Laden avait installé ses quartiers généraux à Khartoum, et en 96, on lui a demandé de partir, et c'est à ce moment-là qu'il est parti en Afghanistan. Et à l'époque, il y avait également le terroriste Carlos qui était là-bas, donc effectivement, berceau, je sais pas, mais en tout cas, pendant un temps, les cerveaux d'Al-Qaïda se trouvaient là. Et puis, à cette époque-là, le département d'État américain soupçonnait, à tort, mais à l'époque, il soupçonnait que Ben Laden, qui était au Soudan pas seulement en tant que chef terroriste, mais également en tant qu'investisseur, il a fait beaucoup de choses au Soudan, possédait 70% de la production de gomme arabique.
Ah, voilà.
Aujourd'hui, on sait que c'est une source de la CIA qui a été payée des centaines de milliers de dollars pendant des années par la CIA pour fournir des informations qui étaient souvent erronées sur le Soudan, dont cette information-là. Mais à l'époque, on le soupçonnait malgré tout, on pensait que c'était le cas. Et puis à ce moment-là, on veut impliquer des sanctions. On se rend compte que si on applique des sanctions sur le Soudan, eh bien on se tire une balle dans le pied, puisque du coup on ne peut plus aller acheter de gomme arabique au Soudan. Et on décide d'organiser en catimini un système d'exemption. Ce qui fait que depuis 1998, l'embargo américain sur le Soudan s'applique à tout, sauf à la gomme arabique. Et à l'époque, on ne savait pas, on n'était pas sûr, est-ce que cette histoire d'implication d'Al-Qaïda dans la gomme arabique est vraie ou pas? Quelques mois plus tard, on a vu que ce n'était pas vrai, mais n'empêche que pendant un temps, sans savoir, on a continué à acheter de la gomme arabique aux Soudanais. Et ce qui faisait dire en l'an 2000 au sénateur américain Frank Wolf devant le Sénat, juste un an avant les attentats du 11 septembre, qu'à chaque fois qu'on achetait une canette de soda, on versait quelques dollars, on aidait à financer les caisses de Ben Laden. Bon, en tout cas, c'était un soupçon.
Serge Alimi.
Oui, l'une des dimensions passionnantes de l'enquête de Guillaume Dutron, qui concerne justement les sanctions qui exemptent la gomme arabique, c'est qu'on voit des parlementaires américains qui s'adressent au département d'État en disant « il faut vraiment exempter le Soudan de ces sanctions », sans qu'on comprenne exactement pourquoi, jusqu'au moment où on sait que ces parlementaires américains ont financé leur campagne ou financent leur campagne avec de l'argent de Coca-Cola ou d'autres marques de soda qui ont besoin de gomme arabique et que, au nom même de ces financements, ils oublient tout leur discours sur les droits de l'homme, le fait qu'il faut prendre des mesures de sanctions, etc., pour justifier ces mesures d'exemption. Ce qui montre que certains parlementaires américains sont davantage des sénateurs Coca-Cola que des sénateurs de Floride ou du New Jersey.
Ah, voilà une note anti-américaine pour finir. C'est tout. On est bien au diplôme. Merci à tous.
Hi, recognize that sound?
Delicious.
Makes you thirsty just to hear it, doesn't it? And every time this sound meets up with a healthy thirst, something wonderful happens to a thirsty throat. This sound will already be on its way to becoming the greatest sound in town. As we know, nothing like this has ever been done before. An all-out across-the-board effort to make more people thirsty. Thirsty. Why we call it Thirsty First, because this is a program where thirst comes first.
Ouais, n'empêche qu'ils n'ont pas dit qu'il y avait de la gomme arabique dedans. Hein? Merci à tous. Serge Halimi, Alain Grèche, Renaud Lambert et Guillaume Pitron. Autour du numéro du mois d'avril du Monde Diplomatique, vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Grégory Wallon. Koyen Guyenne et Franck Adhérère ont réalisé cette émission. Agnès Lebotte nous a assisté et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Arrêter, c'était pas si simple, surtout après tant d'années.
Quand on est dedans, on se rend pas compte. Au final, l'addition est lourde.
Mais à deux, c'est quand même plus facile d'arrêter.
Vous aussi, arrêtez de banquer. Chez Fortunéo.fr, la banque en ligne moins chère, les cartes bancaires sont gratuites et pas seulement la première année. En ce moment, 60 euros offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Alors pour arrêter de banquer, tapez Fortunéo.fr.
Et oh, Fortunéo.
Offre sous conditions disponible sur Fortunéo.fr.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Prends cette offre.
Mais si, ça c'est bien.
J'avais des projets de travaux de chauffage et d'isolation.
Mais fais pas ça, t'es fou.
Tout le monde avait un avis et moi, je ne savais pas quoi choisir. Alors j'ai appelé un conseiller EDF Bleu Ciel. Il m'a conseillé efficacement en m'aidant à faire les bons choix afin de rendre mon habitat plus économe en énergie. Tout simplement.
Appelez le 3929, 5 centimes TTC la minute, hors surcoût éventuel selon opérateur. Ou rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bref, on retraite.
Allô, le 3025? Oui, bonjour. Dites donc, c'est vraiment bien votre système de rente à vie pour la retraite du service public? Ma femme est jalouse. Quoi? Elle peut en bénéficier?
Préfond vous répond au 3025, appel gratuit ou sur préfond-retraite.fr. Préfond retraite. Complémentaire et nécessaire.
Et voilà, pile poil, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Il faut renoncer au débat sur la laïcité, c'est le titre de l'éditorial publié à la une du Monde cet après-midi. De plus en plus de voix s'élèvent contre ce débat organisé lundi par l'UMP. La sénatrice et ancienne maire de Strasbourg, Fabienne Keller, a proposé au bureau politique de l'UMP son annulation en signe d'apaisement. Les représentants des six grandes religions de France ont signé un texte commun pour s'inquiéter des conséquences de ce débat. Ils appellent notamment les politiques à ne pas ajouter de la confusion dans la période troubles que nous traversons. Réponse du patron de l'UMP, Jean-François Copé, qui ne désarme pas. Le débat sera une contribution au combat collectif contre l'ignorance, pour le dialogue et l'écoute, précise-t-il. Le rapport de l'autorité de sûreté nucléaire française, l'ASN, particulièrement regardé de près cette année, alors que le Japon se débat toujours avec la catastrophe de Fukushima. L'ASN pointe en premier non pas les dangers des centrales, mais ceux de l'imagerie médicale, notamment les scanners, la rapide et forte augmentation des doses de radioactivité délivrées aux patients est un souci majeur en France, souligne le rapport, et l'ASN préconise de préférer l'IRM qui n'émet pas de rayons X. Le Sénat revient sur plusieurs textes votés par les députés. En commission des lois, les sénateurs ont rejeté les restrictions au séjour en France pour les sans-papiers atteints de pathologies graves. Ils ont également modifié sensiblement le texte de révision des lois de bioéthique. Les sénateurs préconisent une levée de l'anonymat pour les donneurs de gamètes à partir de 2013 et l'autorisation de la recherche sur l'embryon sous condition, des amendements qui doivent maintenant être votés en séance publique. Silvio Berlusconi promet d'évacuer d'ici 2 à 3 jours tous les immigrés réfugiés sur l'île de Lampedusa et qui s'entassent dans des conditions indignes. Le chef du gouvernement italien s'est rendu en personne sur cette île au sud de la Sicile qui fait face à un afflux massif de clandestins, principalement venus de Tunisie. 6 navires doivent emmener les 10 000 clandestins vers d'autres centres d'accueil en Sicile et sur la péninsule italienne. Déception pour les opposants en Syrie, Bachar el-Assad n'a finalement annoncé aucune réforme majeure lors d'un discours très attendu devant le Parlement. L'état d'urgence n'est toujours pas levé et le président syrien a dénoncé une conspiration contre le pays. En Égypte, l'élection présidentielle se tiendra 1 ou 2 mois après les législatives prévues en septembre. C'est ce qu'annonce le Conseil suprême des forces armées qui assure la transition depuis le départ d'Hosni Moubarak. En Libye, la contre-attaque des forces fidèles au régime engrange les succès. Les insurgés ont notamment dû quitter précipitamment le site pétrolier de Ras Lanouf pour se réfugier plus à l'est vers Brega. Nouvelle offensive également sur Misrata, dans l'ouest du pays, où la situation humanitaire se dégrade de jour en jour. Pour aider les rebelles, Paris, Washington et Londres envisagent désormais de leur donner des armes. Pas question d'augmenter la TVA, c'est ce que précise François Fillon dans une interview à l'hebdomadaire L'Usine Nouvelle. Le Premier ministre n'a pas l'intention de suivre les préconisations de la Cour des comptes, car le gouvernement donne la priorité à la réduction des niches fiscales.
Tous les jours.
On va pas rentrer dans les détails quand même.
À partir de 11h.
Vous n'êtes pas du genre à faire.
Stéphane Bern.
C'est un rôle où vous êtes juste deux avec des matraques et des menottes.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct de Metz avec Jean Tellet et Emmanuel Martinez, rendez-vous demain jeudi dès 10h à Metz dans l'église Saint-Pierre-aux-Nonnes.
Ah, on ne peut pas savoir ce qui se passe après.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, Stéphane Bern, tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter, partenaire de l'exposition Van Dongen jusqu'au 17 juillet au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Peintures, dessins, affiches et céramiques retracent le parcours parisien de ce fauve, anarchiste et mondain, de la vie de bohème à la période cocktail des années folles. Retrouvez l'exposition Van Dongen dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter et l'Opéra Comique présentent le Freischütz. Retrouvez le chef-d'œuvre de Weber, symbole du romantisme allemand, dans l'adaptation française de Berlioz. Dirigé par Sir John Eliot Gardiner et mis en scène par Dan Gemet. Le Freischütz, du 7 au 17 avril, à l'Opéra Comique. À retrouver dans les émissions de France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, et après le Freischütz, on reste dans la musique classique avec Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors les journaux sont emplis de mauvaises nouvelles, vous le savez, mais quand même un entrefilet tout à fait sympathique, l'histoire du jour dans le Figaro, en dessous bien sûr de la situation nucléaire à Fukushima, jugée imprévisible, ça évidemment, ça fait frissonner. Et quand même un petit sourire avec ce titre, un orchestre londonien joue pour un parterre de fleurs. Donc le chef Benjamin Pope dit, c'est le concert le plus étrange que j'ai dirigé. Il a dirigé pendant 3 heures, 33 musiciens du Royal Philharmonic devant un parterre de fleurs d'une centaine de variétés différentes. C'est la première fois que ça s'est passé. Le concert, qui fera l'objet d'un disque, bon, sera parmi les premiers à le diffuser, bien sûr, s'il est bon, a été financé par une chaîne de téléachat pour la promotion des semis de printemps. Et la théorie, c'est que la musique fait du bien aux plantes. On a déjà parlé de l'impact de la musique sur les vaches, qui donnerait plus de lait en écoutant du Mozart. Et il y a eu pas mal d'expériences de ce genre, puisque dans les années 60, une prof de musique de Denver s'était échinée à démontrer que Bach, Haydn, Beethoven ou Schubert favorisaient les épanouissement de certaines plantes. Au contraire, les musiques trop dissonantes provoqueraient une atrophie mortelle. Ben voilà, on va aller droit devant avec le scherzo de la 3e symphonie héroïque de Beethoven. À mon avis, ça devrait faire jaillir les fleurs parce qu'il y a des passages extrêmement toniques.